Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Allez, il est 9h40 sur France Inter, démarrage en trombe de l'instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
On parle beaucoup de secrets des affaires, sans avoir parfois conscience que le monde des PME se révèle tout aussi opaque que celui des multinationales. On a en tête, en invoquant l'investigation des scandales d'État, sans imaginer que les enquêtes peuvent se mener à tous les échelons de notre vie publique, dans la plus petite des municipalités comme au sein du plus puissant des conseils régionaux. Or justement, le travail des journalistes s'avère parfois bien plus ardu au niveau local. Tant les coteries sont pesantes, tant tout le monde se tient par la barbichette, pour utiliser une expression que l'on employait quand on était petit, tant surtout nombre de nos villes de France manquent cruellement d'une presse locale offensive.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Jacques Transeau.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoint. Combien d'années de cartes de presse à l'Express ?
Oh, j'ose à peine compter. À l'Express 14 et au total, je pense 25.
Voilà, vous faites partie des 7 cofondateurs de Médiacité. Vous vous êtes lancé il y a pile un an et demi. Un site d'investigation sans concession, ça c'est ce que vous affichez, pour une information locale, libre et indépendante. Eh bien oui, il y a une place à prendre et c'est ce qu'on va vous raconter ce matin. Mais pour l'instant, on est mardi. Salut Romain Nigy.
Bonjour Sonia.
Romain Nigita qui fête le travail, voyez-vous, en venant causer série. C'est le propre de ces gens qui aiment tellement ce qu'ils font, voilà, exactement, qu'ils n'ont jamais l'impression de bosser. Donc même le jour de la fête du travail, il vient nous parler d'humour anglais. Mais d'abord, hommage. Cultissime indicatif de la télévision française, ces 5 dernières minutes. L'écrivain et scénariste Fred Cassac, scénariste donc des 5 dernières minutes, vient de mourir. Grand prix de la littérature policière en 1958 pour son roman « On n'enterre pas les dimanches ». Fred Cassac, ce n'était pas son vrai nom, c'était un pseudo, il s'appelait Pierre Humblot, et l'auteur d'une multitude de pièces radiophoniques, de romans policiers, mais également de scénarios pour la télévision.
Now for something completely different.
Monty Python, the Flying Circus.
Eh bien, pour bien fêter ce jour, de repos mérité, notre petit cadeau, le cadeau de l'instant M, c'est cette info. Les Monty Python ont débarqué sur Netflix, non seulement leur film, mais aussi et surtout le programme télé qui les a lancés, Romain Nigita.
C'est en effet les 4 saisons du Monty Python's Flying Circus, une émission à sketch diffusée entre 1969 et 1974 sur la BBC. De quoi redécouvrir les fondamentaux des Monty Python, avec des sketchs aussi cultes et absurdes que le ministère des marches stupides.
Qui est un bijou, je vous le dis, c'est extraordinaire.
On ne peut pas vous le passer parce que c'est très visuel.
Voilà.
Le perroquet norvégien bleu ou encore le match de football qui oppose les philosophes de la Grèce antique aux philosophes allemands.
Eureka! Archimedes out to Socrates. Socrates back to Archimedes. Archimedes out to Heraclitus. He beats Hegel. Heraclitus a little flick. Here he comes on the far post. Socrates is there. Socrates, there he is.
Non mais quand même, il faut que vous sachiez que dans ce match de foot totalement délirant, c'est Confucius qui est l'arbitre et que Socrate ne peut pas taper dans le ballon parce qu'il n'est pas sûr que le ballon soit bien réel. Bref, c'est là, Romain, que tout a commencé pour les Monty Python, avant les films Sacré Graal et La vie de Brian, bien avant même.
Bien avant, ils sont déjà tous là, 5 Anglais et un Américain, John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin et Terry Gilliam, et aussi s'ils écrivent et interprètent tous les sketchs. Gilliam, bien sûr, c'est le futur réalisateur de Brasil et de L'Armée des Doux Singes. Lui, il s'occupe aussi des séquences d'animation qui font les transitions entre les sketchs. Car la grande originalité du Flying Circus, c'est sa structure en marabout bout de ficelle. Chaque sketch est relié au suivant par un procédé totalement loufoque. Par exemple, en brisant le quatrième mur avec un personnage qui interrompt une scénette qu'il trouve stupide. Ou bien, par exemple, ce barbier assassin qui, après 4 minutes de sketch, révèle qu'il aurait voulu être bûcheron.
I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night, I work all day.
He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night.
Un bûcheron dont on découvre aussi au fil de sa chanson qu'il aime s'habiller en femme.
Voilà, les Monty Python cassent non seulement toutes les conventions télévisuelles, mais aussi les conventions sociales, et ce, sur la vénérable BBC.
Et oui, la télévision publique britannique a commandé la première saison alors que la bande n'avait ni concept, ni titre, ni format.
Ça, c'était l'époque bénie. Voilà, ça n'arrive plus aujourd'hui.
Et au départ, l'émission a surtout du succès auprès des jeunes et des enfants. Le succès grandissant, l'émission est mieux exposée et la BBC commence à se mêler du contenu et tente même de censurer des dialogues remplis de masturbation et de pipi, rien que ça. Mais difficile de savoir où frapper car les Monty Python s'attaquent à tout le monde. Les riches, le gouvernement, l'administration, les vieux, les pauvres, les bigots et même les présentateurs de télé.
Voilà, et pourtant nous Français, on a mis beaucoup de temps à pouvoir revoir cela et on a failli d'ailleurs ne jamais découvrir ces images et ces séquences.
Et oui, puisque dans les années 60, la plupart des émissions et séries de la BBC sont tournées sur bande vidéo. Or à l'époque, ces cassettes vidéo coûtent très cher. Alors après la première diffusion, la BBC efface les bandes pour les réutiliser.
C'est dingue, non ?
Et pour cette même raison, d'ailleurs, une centaine d'épisodes de la série Doctor Who a totalement disparu. Et c'est bien ce qui a failli se passer pour les Monty Python. Mais quand il a appris cela, Terry Jones a racheté lui-même toutes les bandes pour les sauver.
Voilà, donc nous, on a attendu 1991 pour découvrir en France, sur France 3, notamment le Flying Circus.
Tout à fait, c'était sur FR 3, même Canal Jimmy, et puis évidemment ensuite en DVD. Et c'était l'occasion de s'apercevoir qu'il tapait sur tout le monde, y compris sur nous, les Français.
Bonsoir, ici nous avons les diagrammes modernes de mouton anglo-français. Ce n'est pas le WGB, le propos de l'esprit.
Voilà, le Flying Circus, les Monty Python à redécouvrir ou à découvrir. Faites voir ça à vos enfants sur Netflix, puisque aujourd'hui on ne bosse pas, c'est l'occasion.
L'instant M, tous les médias sont sur France Inter.
Ne courrez point, monsieur, le risque de vous faire sonner les cloches pour avoir négligé d'offrir ces blanches clochettes à ceux que vous aimez. Muguet de mai. Chaque année, nous le retrouvons, petit bouquet qu'on vend au coin des rues. Petit bouquet, hélas, de plus en plus cher.
Médiacité abondamment ce matin, cité dans la revue de presse de France Inter pour cette enquête sur qui cueille le muguet. Un focus sur ces réseaux de migrants roumains qui ramassent ces chers brins qu'on offre aujourd'hui. Médiacité lancée il y a un an et demi, Lille, Toulouse, Lyon, Nantes, 6,90€ par mois. Jacques Transeau, je l'ai dit, vous êtes l'un des confondateurs, vous êtes à nos côtés ce matin à la Maison de la Radio et au téléphone depuis Lyon, Mathieu Péris. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur de Église, la mécanique du silence, qui est sortie l'année dernière chez JC Lattès. C'était cette grande enquête sur la pédophilie dont on a parlé dans l'instant M, que vous aviez co-signé avec Mediapart et Cache Investigation. Vous collaborez, Mathieu Péris, avec Mediapart, avec Radio France également. Et vous faites partie des signatures en région, donc, de Médiacité. Un mot d'abord avec vous, Jacques Transeau. Oui, il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre parce que en France, la presse régionale, la presse quotidienne régionale, manque férocement de pluralité.
Alors, mes confrères de la PQR, la presse quotidienne régionale, oui, n'aiment pas trop quand je dis du mal d'eux. Mais en fait, le constat, il est flagrant. C'est-à-dire que vous avez dans chaque grande ville un grand journal de presse quotidienne régionale qui est dans une position quasi monopolistique, qui est en lien d'affaires avec les collectivités, que ce soit via la publicité, via les offres légales et judiciaires ou via des partenariats, et qui, dans sa position de monopole ou de quasi-monopole, se transforme en grand journal qui défend une région et devient l'emblème d'une région et perd l'acuité journalistique qui est nécessaire, perd la bonne distance critique qui est nécessaire.
Jacques Transeau, il y a aussi le fait que ces dernières années, il y a eu de très grands mouvements de concentration dans la presse quotidienne régionale qui ont même précédé, je veux dire, le rachat des titres de la presse nationale. Donc, toute la presse française au niveau régional est aux mains de seulement 8 propriétaires.
Oui, par exemple, dans tout le Grand Est de la France, vous avez un seul groupe qui est propriété du Crédit Mutuel, ce qui pose un sérieux problème sur la diversité, en fait, journalistique. Par ailleurs, vous avez un troisième phénomène, c'est que la presse nationale, comme elle est en difficulté, est de moins en moins présente en région.
Et moins de correspondants.
Beaucoup moins de correspondants. Vous avez des grands journaux qui n'ont plus de réseau de correspondants régionaux structurés. C'est pour ça qu'il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre au plan économique, mais surtout, il y a une nécessité démocratique d'être présent en région. Parce qu'on part du constat que la décentralisation n'est pas démocratique. Parce que les contre-pouvoirs dans les grandes villes sont très faibles. très faible puisque la presse est faible, parce que la place de l'opposition globalement est faible. Quand vous êtes opposant d'une grande municipalité, vous avez très peu de pouvoir, et parce qu'il y a le phénomène naturel d'entre-soi, vivons cachés, vivons heureux, le phénomène de réseau, le phénomène d'accumulation du pouvoir, et vous avez des notables, vous avez des barons aussi puissants qu'un Laurent Wauquiez, qu'un Gérard Collomb à Lyon autrefois, qu'une Martine Aubry à Lille, et j'en passe.
Est-ce qu'on dit un petit mot de Laurent Wauquiez qu'on a vu apparaître dans cette vidéo surréaliste tournée par les étudiants de l'EM Lyon pendant un cours, une conférence de Laurent Wauquiez, où Laurent Wauquiez assassinait à peu près tout ce qui bougeait sur le terrain politique et notamment à droite. C'est vous qui avez sorti cette info, c'est Mediacité, on l'a découvert dans Quotidien.
Oui, alors exactement, et là on a un bon exemple de la nécessité du pluralisme de la presse, parce que nous, on a nos antennes, puisqu'on est présent en région, c'est un réseau Mediacité. Et donc, on est informé que Laurent Wauquiez va donner 2 jours de cours à l'EM Lyon, et donc, on fait le job, on va voir l'EM Lyon, on interroge la région, puisqu'il est président de la région, on a la confirmation, on récupère le programme, et on publie tout ça le mercredi. Et on voit que nos collègues qui sont à l'affût de tout, nos collègues de Quotidien, avec Paul Laroutourou, regardent, se connectent au site, puisqu'on peut tout voir avec Internet, et puis après fait son travail et récupère un enregistrement clandestin. Mais s'il n'y avait pas eu Mediacité, il n'y aurait pas eu l'affaire Wauquiez.
Voilà, qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un reportage d'un sujet diffusé sur France 3 Rhône-Alpes à propos du directeur de l'Opéra de Lyon.
Le ballet de l'Opéra de Lyon Anti-Maman, le site d'investigation Mediacité révélait l'affaire il y a quelques semaines. Les faits remontent à début 2014. De retour de congé maternité, Carline Marion, danseuse au ballet de l'Opéra depuis 6 ans, se voit signifier la fin de sa collaboration avec l'institution. Motif officiel, l'absence de certaines techniques de danse. Pour la plaignante, c'est bien parce qu'elle est devenue maman qu'on ne veut plus d'elle.
Et les affaires de l'Opéra de Lyon révélées par Mediacité ne s'arrêtent pas là, puisque vous avez publié une très longue enquête, 3500 copies de notes de frais, les Opéra Leaks, 8000 euros par mois, le train de vie démentiel du directeur de l'Opéra de Lyon, tout ça avec de l'argent public, voyage, hôtel, fleuriste, un stylo à 600 euros, des choses qui ont été photographiées par des employés ulcérés par ces privilèges. Mathieu Péris, vous êtes au téléphone avec nous, vous êtes l'une des plumes à Lyon du site Mediacité. J'aimerais que vous reveniez sur ce que vient de dire Jacques Transeau. Est-ce que cette vie locale, vous reporter en région, vous la sentez défaillante dans la couverture médiatique qu'en font les journaux, magazines et quotidiens installés à Paris ?
Oui, c'est un constat qu'on fait de longue date, je pense, et qu'on est loin d'être les seuls à le faire. Moi, je travaille au sein d'un collectif en fait de journalistes indépendants qui s'appelle We Report, oui. Et qui travaille effectivement sur de l'information locale, mais aussi nationale, internationale. Donc, on a des éléments de comparaison. Et nous, ça faisait très longtemps qu'on était demandeur d'un espace médiatique pour pouvoir publier des enquêtes locales au long cours. Qu'on avait une liste de sujets longue comme le bras qui attendait juste d'être fait, mais on n'avait pas cet espace-là. Donc déjà, la défaillance, elle était, de mon point de vue, à ce niveau-là, dans l'espace médiatique, et que Mediacité vient enfin combler.
Mathieu Péris, c'est important ce que dit Jacques, et justement, j'aimerais que vous nous le racontiez, vous, au quotidien. Qu'est-ce que c'est que de s'attaquer à une institution locale quand soi-même, on vit dans une ville, on vit et on travaille dans une ville ? Parce qu'en réalité, on ne se rend pas compte que les barrières sont aussi difficiles à franchir que quand on s'attaque à une multinationale.
Je pense que déjà le premier constat, c'est qu'il y a souvent une absence en fait de culture du journalisme on va dire incisif, offensif, qui prend le temps d'aller au bout des questions. À part, je dis pas qu'il y a aucun média qui faisait ce travail-là. À Lyon, il y avait un magazine Lyon Capital qui faisait quand même du bon travail. À Marseille, ça peut être Mars Actu par exemple. Donc ça existe, mais c'est vrai que souvent les institutions, que ce soit les collectivités ou les entreprises locales, n'ont pas cette culture-là et sont du coup très surprises quand on vient les voir avec des questions très précises, chiffrées, documentées. Et souvent, elles se murent du coup dans un espèce de silence ou voire un peu des voilà, des menaces ou en tout cas, voilà, une fin de non-recevoir de nos questions. Donc déjà, c'est cette culture-là qui est absente, et moi, je le constate assez régulièrement.
Par exemple, puis, il y a une forme d'endogamie, Mathieu Péris, c'est-à-dire que c'est l'un des papiers que Mediacité a publié, de la presse politique, voilà. De la presse à la politique, il y a une forme de grand recyclage des journalistes qui viennent travailler pour les institutions locales.
Voilà, c'est un papier qu'on avait publié, que Mathieu Martinière, donc qui est aussi membre du même collectif, qui avait publié, qui s'appelait Le Grand Détournement, donc qui avait recensé une trentaine de journalistes locaux, hein, de la région lyonnaise, qui étaient partis dans les cabinets des collectivités, à la préfecture, dans les groupes politiques locaux, etc. Donc effectivement, ça pose déjà un vrai souci, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations de proximité, voire de conflit d'intérêts, presque de la part d'anciens journalistes qui aujourd'hui connaissent tous les rouages de la presse locale, connaissent tous les acteurs, les interlocuteurs dans les médias locaux, et se retrouvent en position de pouvoir. Donc nous, on essaye avec Mediacité de ne pas du tout s'inscrire dans ces situations-là.
C'est bien
ça qui fait notre force.
Alors Jacques Transeau, il y a quand même quelque chose qu'on ne mesure pas forcément. S'attaquer à l'Opéra de Lyon. Je dis l'Opéra de Lyon, mais en réalité, vous vous êtes intéressé à Lille 3000, par exemple, à Lille, à toute forme de grandes manifestations qui contribuent au rayonnement d'une ville. C'est très 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 compliqué parce que c'est très important pour ces villes.
Bien sûr. Quand vous êtes un journaliste local et que vous commencez à critiquer ou, disons, à faire votre travail, vous êtes perçu parfois, j'utilise un mot dur, comme un traître à votre ville, parce que quelque part, vous nuisez à votre ville. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un réseau national, Mediacité, très ancré localement, où on puisse s'échanger des sujets. On a le cas, par exemple, de confrères qui disent « il y a un sujet dans telle collectivité, mais mon beau-frère y travaille, je ne peux pas en parler, donc je vous file le sujet ». L'important, c'est qu'ils sortent et donc ils confient le sujet à un autre. Mmh. Donc l'importance du réseau est fantastique. Et c'est vrai, quand on s'intéresse à Lille 3000, qui est la chasse gardée culturelle de Martine Aubry, c'est très compliqué. Et vous avez tout de suite des menaces de diffamation. Mais c'est quand même très intéressant de trouver, par exemple, on a découvert sur les serveurs de Lille 3000, la grosse association culturelle lilloise, des éléments de propagande électorale lorsque Martine Aubry envisageait de se présenter à la présidentielle en 2012, à la place de François Hollande. Elle a perdu la primaire, souvenez-vous. Mais on a trouvé les éléments de campagne, on a trouvé son affiche de campagne, son comité de soutien, et tout ça, où ça? Sur les serveurs de Lille 3000.
Bizarre. Alors, vous vous intéressez également au maire de Valenciennes, enquête que vous signez, Jacques Transeau, pour Mediacité. Là, vous démontez tous un système de prise illégale d'intérêts qui sont totalement effarants. Où en est Mediacité au niveau procès, procédure?
Alors, on a eu des mises en demeure. On n'a pas eu de procès. Oui. On a un très bon avocat, Maître Philola, qui est spécialisé en droit de la presse. Et c'est la première dépense qu'on est honoré. C'est 12 000 euros en forfait annuel pour se protéger. Vous entendez bien, 12 000 euros, on n'avait pas un abonné. On commence par se défendre, parce qu'on sait que ça va être compliqué.
C'est-à-dire, vous mettez de l'argent de côté pour pouvoir faire face.
Exactement. Donc 12 000 euros, qu'on soit attaqué une fois, 10 fois, 100 fois, on paye la même chose.
Oui.
Mais c'est quand même 12 000 euros pour une petite structure comme la nôtre. Je vous garantis qu'il faut des abonnés pour rembourser ces 12 000 euros.
Voilà. C'en est où, des abonnements?
Eh ben, ça progresse. Mais si vous voulez, ça progresse moins que ce qu'on espère. Et donc, je pense qu'on fait du bon boulot. C'est reconnu, on voit le nombre de citations. Mais l'histoire, c'est l'histoire de journalistes qui défendent un métier qui est malmené. C'est des gens qui, comme moi, comme les créateurs, comme tous les membres du réseau, défendent la profession et veulent enquêter, approfondir.
Je prends l'exemple des CHU Lix, c'est-à-dire cette masse de documents qui vous est arrivée depuis l'hôpital de Toulouse, qui montre mais vraiment l'effondrement totalement de cette institution. Vous avez été les premiers à avoir accès à tous les documents.
Oui, et on ne l'a pas fait de façon inconsidérée. On l'a fait de façon raisonnée, c'était nécessaire. Et donc, ce qu'on dit, c'est que nous, on tente le coup. On joue le jeu, on sait qu'il y a un besoin démocratique et on attend que le public soit là, au rendez-vous. Il est sceptique par rapport au journalisme. Allez-y, regardez Mediacité, rejoignez-nous si vous êtes convaincus. Mais allez-y, on vous tend la main, c'est à vous de jouer au
public.
Voilà,
Mediacité à Lille, à Toulouse, à Lyon et à Nantes et encore bien ailleurs. Merci beaucoup Jacques Transeau de nous avoir rejoints.